De voisins et voisines, cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines, émission éducation comme chaque vendredi. Aujourd'hui, que dire ou ne pas dire à nos enfants? Réponse d'un de nos auditeurs, Carl Frédéric, est à Port-au-Prince et qui se souvient de son prof d'anglais qui lui disait « Tu ne seras rien dans la vie ». C'est pas sûr que ça donne envie de travailler. Certes, tous les parents font leur possible, en principe, pour bien communiquer avec leurs enfants, idem pour les éducateurs, et pourtant, il leur arrive parfois de s'emporter, de prononcer des mots qu'ils regrettent. Alors comment motiver au lieu de décourager, guider au lieu de vexer, en finir avec les petites phrases assassines et trouver les mots justes, c'est pas simple. Appelez-nous les voisins si vous avez... Vous savez, ces phrases coincées dans votre mémoire d'enfant ou de jeune, et si vous avez du mal à parler justement maintenant avec vos enfants, appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le numéro de téléphone sur WhatsApp sur lequel vous pouvez poster des messages écrits et bien sûr aussi la page Facebook. Nos invités dans le studio, Bernadette Lemoine. Bonjour Bernadette.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, psychothérapeute. Vous publiez « Petites phrases à leur dire pour les aider à grandir ». Pascal Maquin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseiller éducatif et familial. Vous avez été éducateur spécialisé auprès de jeunes en grande difficulté. Vous avez côtoyé beaucoup, beaucoup de jeunes, d'adolescents. Et tout de suite, quelles sont ces petites phrases qui font mal? Inès Edel Garcia a posé la question un peu à toutes les générations à Paris.
Tu n'as pas été désirée. Quand j'étais petite, mes parents m'ont répété plusieurs fois que je n'avais pas été désirée parce que j'étais ce qu'on appelait à l'époque un accident.
Et comment vous avez réagi, vous, quand vous étiez petite à ça?
Oh, je pense que petite, ça ne m'a pas vraiment traumatisée ni posé de problème. Je pense que ça a laissé des traces après. C'est-à-dire que longtemps après, le fait que je sois dans un endroit où je n'étais pas désirée, je partais très vite.
Fais des efforts à l'école parce que là, tu es nulle. Je pense pas que je sois nulle. Je pense que je montre pas mes capacités, c'est tout.
T'aurais préféré qu'on tourne la phrase comment?
Bah, en me disant en même temps un compliment. Je sais que t'as des capacités, fais-en plus.
C'est pas un métier pour toi ou c'est pas un vrai métier, ce genre de choses quoi en fait, qui permet en fait de pas réaliser ses rêves, tout simplement. Donc ouais, pour moi c'est la phrase qui est le plus blessant, parce que ça veut dire qu'on croit pas vraiment à son enfant.
J'étais en sixième et il y avait des compositions trimestrielles, la composition de Pâques, je suis sorti premier avec 171 points sur 200. Et je suis allé annoncer ça à mon père, qui m'a bien sûr pas félicité, mais enfin qui m'a dit que j'aurais peut-être pu faire mieux.
T'es pas obligé de prendre un goûter si tu veux, hein. Ou ce serait bien que tu fasses du sport. Donc tout ça par rapport au physique et tout ça, c'est assez, voilà, pas très cool de leur part.
Et comment vous réagissiez à l'époque?
Je me renfermais, je me mettais un peu en colère, ou j'essayais un peu de répondre, en mode, je fais ce que je veux dans tous les cas. Mais ça me faisait du mal intérieurement et... J'en ai rediscuté avec ma mère et je pense qu'elle s'en rendait pas compte que ça me faisait du mal en fait.
Moi quand ma mère elle est énervée, elle sort tout mais sans, enfin elle le pense pas mais elle le dit. Enfin, par exemple, je t'aime pas, va vivre chez ton père ou des trucs comme ça.
Et qu'est-ce que tu ressens toi, ton fort intérieur?
Je suis triste mais enfin je sais que c'est faux, enfin qu'elle est énervée des fois comme ça. Mais sinon des fois je me dis ça se trouve elle le pense vraiment.
Est-ce que vous vous souvenez d'une phrase, d'une remarque que vous aurez faite de vos parents plus jeunes et dont vous vous souvenez encore tellement ça vous avait blessé?
Non, pas spécialement.
Non? Bon, merci beaucoup.
Mais je vais chercher ma fille alors je vais faire attention.
D'accord.
Bonne soirée.
Au revoir.
Ça y est, maintenant tout le monde va surveiller ses propos avec les jeunes, avec les enfants. Bernadette Lemoine, vous avez vu, il suffit de tendre un micro dans les rues et puis on a des réponses oui. Assez cash. Hein.
Terrible. Terrible parce que c'est très fréquent que l'on entende des réactions comme celle-là et on se rend probablement très peu compte de l'impact de ces paroles qui sont des paroles destructrices. Mais les parents ne le font pas par méchanceté, ils le font parce qu'ils ne sont pas conscients de l'importance de la parole. Voilà. Mais des paroles qui sont négatives ou qui sont fausses peuvent toujours être redressées ultérieurement. Mmh. Et je pense que c'est quelque chose de très, très important de pouvoir changer ces paroles négatives en paroles vraies et positives.
Jamais. C'est pour ça qu'on fait cette émission.
Oui.
un auditeur poste ce message. Moïse, il est à Lubumbashi. Il est psychologue d'ailleurs en République démocratique du Congo. Il nous dit les enfants sont des appareils enregistreurs. Les mots prononcés par les parents quand ils sont fâchés ont de l'incidence sur leur développement dans leur vie. Il faut donc bien peser ces mots, Pascal Maquin.
Moi, ça ne m'a pas impressionné parce que j'ai déjà entendu tout ça, mais même bien pire. Oui. Mais là, dans ce qui était dit, souvent, c'est la frustration des parents. Les parents, ce qu'ils veulent, eux, c'est ils veulent le meilleur pour leurs enfants, mais en fait, à travers eux, ils vivent à travers leurs enfants. Donc, ils projettent un schéma. Et si le schéma n'est pas atteint, on va avoir de la frustration. Et comme ils ont du mal à parler à leurs enfants, et justement, ça, le problème, il faut peut-être qu'ils parlent encore plus et plus en amont, et ben ils emmagasinent et d'un coup, il l'a dit d'ailleurs, il y a un des jeunes qui l'a dit, il a dit ma mère, quand elle est énervée, quand on est énervé, c'est qu'on est au bout des choses, qu'on n'a pas dit les choses, et ben d'un coup on crache des mots. Et des mots destructeurs, comme a dit, qu'on ne pense pas destructeurs.
Alors, voilà. Il faut parler à ses enfants. Bien évidemment, là, on va expliquer aux parents, pendant toute l'émission, ce qu'il ne faut pas dire à ses enfants. Mais bien sûr, il ne faut pas non plus bloquer les parents. Il faut quand même que... parce que sinon, bon... vous nous appelez, les voisins et les voisines, au 33 1 84 22 71. 71, on accueille Dan qui nous appelle de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Bonjour, Dan.
Bonjour, Emmanuel. Bonjour, Alexis. Bonjour aux petites milliards de voisins.
Soyez le bienvenu, Dan. Vous avez 27 ans, vous êtes célibataire. Et les années difficiles ne sont pas si loin derrière vous par rapport à la façon dont vous avez grandi, non, je crois, Dan.
Oui.
Racontez-nous par rapport à ces phrases.
Donc voilà, depuis tout petit, je n'ai jamais été félicité par mes parents pour quoi que ce soit. Mon père m'a toujours dit que j'étais nul. Il me le disait de manière assez implicite que les autres seraient toujours meilleurs que moi. Et ça m'a affecté depuis tout petit. Et aujourd'hui, j'ai 27 ans. J'en souffre encore. Je me balade avec un manque de confiance en moi qui devient insupportable. Et pourtant, il y a des gens qui me disent que je suis intelligent. Mais le problème est que je ne les crois pas du tout quand ils me disent. J'ai beau me convaincre que c'est vrai, mais il y a une partie de moi qui dit que c'est faux. C'est que c'est trop facile pour moi de réussir. Parce que c'est ce qu'on me disait à la maison quand je réussissais, que c'était trop facile, que n'importe qui pouvait réussir.
Quand vous réussissiez scolairement, on vous disait que ça n'avait pas de valeur, oui. Finalement, c'est ça, que c'était une évidence.
Pas de valeur, c'était trop facile. Oui. Oui. Parfois, je me dépensais, je me sacrifiais toutes les nuits pour étudier, et quand je ramenais de bonnes notes, on disait que c'était trop facile.
Oui. Mais oui. Vous avez fait des études supérieures, Dan ?
Oui.
Mais vous savez que ça correspond à...
en communication des organisations.
Oui, donc vous êtes diplômé d'enseignement supérieur au Congo, ça correspond à un infime pourcentage de la population. Donc ça n'est pas si simple.
Et même ce jour-là, je n'ai pas été félicité.
Le jour où vous avez été diplômé de l'université, vous n'avez pas été félicité.
Non.
Et aujourd'hui, il y a toujours cette petite voix qui vous parle finalement.
Oui, la petite voix qui me dit que tu es nul. Quand j'ai réussi, c'est parce que c'est facile. C'est parce que, il n'y avait rien de dur. Il n'y avait rien de dur à faire et c'est facile.
Mais alors comment vous avez fait, malgré tout, cette voie, elle est tout le temps là, vous le dites, mais comment vous avez fait, malgré tout, vous avez réussi, malgré cette mauvaise voie. Comment vous avez fait ?
Mais la voix, je l'écoute tous les jours. Ça me met mal à l'aise, en fait. Parfois, je sens que j'ai fourni des efforts pour réussir. Et quand j'écoute cette voix-là, ça met mal à l'aise. Je suis allé sur Internet, j'ai téléchargé des livres sur des livres psychologiques qui parlent de la confiance en soi, de la confiance en soi, de l'attitude du mal dominant, des trucs comme ça. Et voilà ce qui m'aide un petit peu à changer de...
Et vous, vous avez une question précise, je crois, à poser à nos invités, Dan.
Oui. Alors, je me demande si lorsque j'aurai une famille, je reproduirai quasiment le même modèle parental. Parce qu'on dit souvent qu'on finit toujours par traiter ses enfants de la même manière qu'on nous a traités quand on était petit.
Bernadette Lemoine.
Oui, j'ai envie de répondre à Dan qu'effectivement, c'est une possibilité de reproduire. Mais quand on reproduit, La plupart du temps, c'est parce qu'on n'a pas pris conscience de ce dont on avait souffert. Et si vous avez des enfants, vous les aimerez, vous voudrez faire le meilleur pour eux et vous serez très attentif justement à exprimer votre estime pour vos enfants parce que c'est ce qui vous a manqué. Vous n'avez pas été estimé à votre juste valeur. Vous avez été mésestimé. Vous ne le méritiez pas. Et là, je suis certaine que vous serez attentif à déceler tout ce qui est positif chez vos enfants, les encourager à faire grandir ce positif. Mais chaque enfant, ce sera à son rythme, à sa façon. Et parce que vous êtes conscient du mal que cela vous a fait et que vous êtes conscient de ce que vous dites, de ce que vous pensez, de vos réactions.
Oui.
Alors, moi, je suis très optimiste pour vous. Faites-vous confiance.
Pascal Macquin, Dan, il formule très très bien son histoire, hein, son témoignage.
Ouais, il a bien analysé les choses. Après, moi, j'ai envie de lui dire, peut-être, alors je ne sais pas s'il va pouvoir le faire, peut-être discuter avec son père maintenant qu'il est plus âgé.
Dan, vous êtes toujours en ligne avec nous. Hein.
Peut-être...
Oui, je suis toujours là.
Voilà, pour exorciser les choses.
Est-ce qu'il est toujours vivant, votre papa ?
Toujours là.
Il est toujours là, donc vous pouvez...
Non, je parle très rarement.
Ah, vous parlez très rarement.
Alors oui, alors d'accord, mais ce serait peut-être intéressant, ça peut être dur pour vous, mais de lui parler parce que je pense que vous apprendrez qu'il n'a pas voulu être méchant avec vous. En fait, lui, je pense qu'il a, lui, reproduit le schéma qu'il a eu enfant et qu'il voulait le meilleur pour vous, et effectivement d'une mauvaise manière. Et je pense que lui, pour lui, s'il vous a bien éduqué dans sa tête à lui, il vous a bien éduqué. Donc de lui dire, pas tu m'as mal éduqué, mais de lui dire, écoute, voilà, papa, moi aujourd'hui, je manque de confiance et tout. Même si peut-être il ne va pas l'entendre, il va mal l'accepter, au moins vous allez le cracher, ça va vous faire du bien. Et derrière, vous allez pouvoir vous réaliser dans d'autres activités pour prendre de la confiance dans des choses que vous réussissez. Et chaque fois que vous faites quelque chose, vous faites une étape pour vous, pensez à vous, pas à votre père, à vous. Vous dites, j'ai réussi ça. Il faut vous le dire, vous, maintenant. C'est vous qui devez faire ce travail-là. Mais moi, je vous conseille de parler à votre père.
Et puis, quand vous allez avoir des enfants, Dan, vous allez, puisque Bernadette Lemoine vous l'a expliqué, vous ne serez pas du tout comme ça. Vous allez donc être, peut-être que vous serez le premier, la première génération à briser la malédiction de la petite voix.
D'accord, je l'espère bien.
C'est une certitude. Vous l'avez analysé, vous le savez, vous en êtes conscient. C'est une certitude que vous allez faire tout l'inverse. Mais voilà, essayez d'être au milieu, parce que peut-être que tout l'inverse, vous avez entier des enseignements et vous dire « Ah ben, en fin de compte, c'est trop permissif, voilà. » Je pense qu'il faut, vous avez appris des choses et au final, votre père, en vous faisant ça, il vous a fait, je vais mettre un guillemet, peut-être un peu un cadeau pour vos enfants plus tard, de vous dire « Ok, je vais mettre le curseur au milieu. »
Un cadeau, de cadeau.
Ouais. Et puis, je pourrais rajouter quelque chose. Quand ces petites phrases viennent à votre esprit, corrigez-les. Qu'est-ce que papa aurait dû me dire à la place ? Et petit à petit, à force de faire ces corrections,
alors qu'est-ce qu'il aurait dû lui dire ? Qu'est-ce qu'il aurait dû lui dire à la place de tuer super facile ce que tu as réalisé ? Puisque c'était ça qu'il vous disait, Dan. Hein.
Oui. Alors, tu as réalisé quelque chose de difficile que beaucoup ne réussissent pas. Tu as mis tous tes efforts pour le faire. Je te félicite. Je suis fière de toi. Parce qu'il faut à la fois nourrir votre confiance en vous et l'estime de vous. Et ça, vraiment, c'est le rôle du père, principalement. Et il faut que vous vous disiez, papa n'était pas capable de me dire les bonnes phrases pour moi, pour me faire grandir. Mais moi, je vais me les dire. Vous êtes un petit peu votre propre parents, vous vous rééduquez.
Dan, c'est bien clair, là, les conseils que vous avez pu avoir ?
C'est très clair. Ça m'a vraiment beaucoup aidé.
Voilà, vous allez vous parler à vous-même, et puis vous allez remplacer la petite voix là, néfaste au fond de vous. Très, très bonne journée à vous, Dan, à Kinshasa, et bravo.
Bonne journée à vous aussi.
Et merci d'avoir témoigné, parce que c'est pas simple. Merci beaucoup. Je pense qu'on aura sûrement d'autres témoignages qui vont suivre. Merci beaucoup. Très bonne journée, Dan. Vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Pascal Macquin, vous, en général, qu'est-ce que vous dites aux adolescents qui reçoivent ces phrases, pas forcément toxiques, mais ce n'est pas des phrases qui font du bien et qui permettent d'avancer ?
En fait, je travaille aussi sur les parents parce que, en général, quand j'entends ces phrases-là, c'est que c'est au bout de la route, c'est-à-dire que les phrases ont vraiment déjà eu un impact sur l'enfant. Il y a déjà eu quelque chose. Ça peut être un enfant qui devient anorexique parce que son père ou sa mère lui dit depuis des mois t'es grosse, regarde comment t'es, regarde nanan, tu manges trop, etc. Donc, elle finit par être anorexique, par plus manger ou faire de la boulimie pour se venger de ses parents, donc grossir, grossir, grossir. Donc, moi, quand j'interviens en général, c'est déjà qu'il y a eu les effets des phrases néfastes. Donc, je fais déjà un travail sur l'enfant et les parents en parallèle, de façon à faire comprendre aux parents l'impact qu'ont eu leurs mots, qui réapprennent à parler à leurs enfants, voilà, parler, les aimer, voilà, leur donner vraiment un dialogue beaucoup plus positif, et les enfants comprendre l'erreur de leurs parents et avancer aussi avec ça. Voilà, donc c'est un double travail.
Bernadette Lemoine, un des tout premiers conseils que vous donnez dans votre livre, c'est peut-être d'apprendre même parfois, d'apprendre à dire à son enfant qu'on l'aime et que c'est un préalable, mais ce n'est pas forcément une évidence pour tous les parents.
Et pourtant, l'enfant a besoin autant de se sentir aimé, parce qu'on a des gestes tendres, des gestes affectueux, mais il a besoin de la confirmation par la parole. Et les deux sont absolument indispensables. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre ou l'autre sans l'un. Il a besoin absolument des deux. Et que les deux soient dans le même sens, c'est-à-dire que si je balance tout le temps des paroles négatives, désastreuses, et que je fais des tas de câlins, je crois que l'enfant se dit « mais où est l'amour ?» Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a besoin de beaucoup de cohérence entre ce qui est dit et ce qui est vécu.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Que dire ou ne pas dire à nos enfants?
Bien profond et veulent tes fonds, capable de tout défoncer. Devant ta cachette, ça t'a crossé, avec ta bouche t'as tout craché. L'endroit où tu coffrais, ce coffre on s'est refait. Y'avait moins qu'on pensait, mais c'est pas grave, on dépense tout. Et on repart sur un coup, coup sur coup. Un bandolero s'arrête pas, même quand son pote est fait péter. Pendant que les cons dépètent sa porte, tout dans le 16, il fait une porte. Il a jamais toc-toqué, comme jamais baissé son froc. Beaucoup, beaucoup de mauvais souvenirs avec la propre. Les mondes devant tous les coqs et le PJ fait le perroquet. Pendant que la DJ reste plus la Hulk Book à ses frères. Fumer, fumer, je vais t'avoir comme le mulet. Un bandolero, c'est reconnaître du robot. Un bandolero, la désirée du bateau. Un bandolero, je te traduis, c'est dire bandit. Un bandolero, c'est reconnaître du robot. Un bandolero, la désirée du bateau. Un bandolero, je te traduis, c'est dire bandit. On dit ça balance pas qui t'a niqué un bout de sa vie. Il en est peut-être pas ravi, mais ça marche comme ça dans le navire. Si tu veux pas que le four chavire, gros fait péré, qu'à t'es dire une bandero, qu'est-ce la vie dans. Il a moitié à la vie, à la mort, c'est refait. Il les aime pas face à sa mère, il est pas fort, c'est bien la seule qui donne des ordres. Tu frimes, il fout le désordre, mais il est connu d'aucune tête. Toujours oui, un tête à tête. Crois-moi que c'est une tête dure comme Bendy Rose, une valeur sûre. Il sait où investir, son business il fait fleurir. Il s'habille pas trop en haute couture, il pense beaucoup au futur. Futuriste et réaliste, les bâtards et les raids de la liste. Plus étonné que les Schmitt le piste, il a jamais eu de piston. Maintenant il écoule des litres. En vacances, t'es payé à l'air. Chaque jour, il dépense ton salaire. Mais l'affaire, elle est salée. Sur son chemin, il a tué un bandolero. Ça reste pas, pourtant la balle le rattrape pas. Un bandolero, c'est reconnaître du robot. Un bandolero, la désirée du bateau. Un bandolero, je te traduis, c'est dire bandit. Un bandolero, c'est reconnaître du robot. Un bandolero, la désirée du bateau. Un bandolero, je te traduis, c'est dire bandit. C'est Bendejo, histoire de Bédo, histoire de Coco. Il adore jouer au con, mais c'est pas un con coquet. Les coqs les cherchent, il est partout, mais depuis longtemps il est parti. J'en dis pas plus, un qui cogite. Un clin d'œil pour la PJ, je les repars à haut, je suis trop pareil. Va tous locos à la moitié, c'est mon compte de fait, je compte sur personne. Et perso, je leur pisse dessus. De toute façon, la squad, c'est un bandit. L'autre et mytho qui font marrer. Dans la vraie, je suis l'avocat. J'ai tout vu, mais j'avoue pas. Abandonnello, c'est reconnaître du robot. Abandonnello, la désirée du bateau. Abandonnello, je te traduis, c'est dire bandit. Abandonnello.
C'est Bandolero chez 7 milliards de voisins. Mona Lasquale, nous parlons éducation comme chaque vendredi. Et aujourd'hui, c'est plutôt les mots qui éduquent ou qui font du mal. Que dire ou ne pas dire à nos enfants? On est avec Bernadette Lemoine et Pascal Maquin. Et vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Divine nous appelle de Yaoundé au Cameroun. Bonjour Divine.
Bonjour à vos studios.
Merci d'être avec nous en ligne en direct. Divine, vous avez 33 ans, vous n'avez pas encore d'enfants. Vous avez grandi dans une famille de 5 enfants, mais vous voulez surtout nous parler de votre maman.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle vous disait, votre maman?
Alors,
maman, elle a l'habitude de dire mieux de vous, je paye votre éducation, il n'y a personne pour nous pour qui avait payé pour moi. Donc, vous ferez mieux de faire comme vous voulez. Et du coup, quand on grandit et qu'on reçoit encore ces messages, ça fait très mal. Donc, et parfois, quand vous avez besoin de quelque chose, elle dit « moi qui l'a fait pour moi ».
C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, finalement, vous attendez des phrases qui ne viennent pas de votre maman. C'est ça, une certaine tendresse, gentillesse, bienveillance qui ne vient pas, mais toujours cette dette, en fait. Hein, elle vous ramène à cette dette des études qu'elle vous a payées et qu'elle n'a pas eues.
Oui. Donc, elle nous fait comprendre, je ne suis pas peut-être la seule, mais tous ses enfants. Donc, elle dit, votre éducation, je suis seule qui m'occupe de vous. Votre père, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'avait rien et tout ça. Et mieux de vous, moi, je m'occupe de vous. Mm. Donc, vous allez devoir vous battre de vous-même. Donc, c'est pas trop, ça fait mal quand même. Mm.
Et encore aujourd'hui, elle tient ses propos.
Oui, deux fois elle tient ses propos. Elle dit elle a été abandonnée d'elle-même. Il n'y a personne qui l'a tenu la main pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Et bon, du coup, on dit, bon, des fois je dis, maman, pourquoi tu as toujours l'habitude de dire ça? Même si tu as passé les enfants difficiles, c'est pas la peine de faire passer l'enfance difficile aussi à ton enfant.
Oui.
Parce que du coup, ça se répète et c'est pas bon. C'est juste.
Aujourd'hui, Divine, vous avez 33 ans et vous avez du recul sur tout ça, visiblement. Hein.
Oui. Donc, ce qui me fait penser parfois à ça, c'est que parfois, tu as besoin d'avancer et tu as besoin d'un soutien, peut-être pas peut-être financier parfois, du soutien moral d'une personne que tu aimes qui peut te dire, ma fille, c'est l'étape de la vie, ça va passer.
Un encouragement et puis dédramatiser aussi. Et ça, votre maman, elle ne peut pas vous l'apporter. Hein. Ben, on ne va pas pouvoir la changer non plus, hein, votre maman. Là, si vous avez 33 ans, bon...
Le problème, Pascal, c'est que votre maman, elle ne va tout simplement pas bien. Et en fait, elle n'a pas compris votre rôle. Vous êtes sa fille, vous n'êtes pas son psychologue ou son confident. Et en fait, elle, ce qu'elle a fait avec vous, c'est de vous dire « je ne vais pas bien ». Elle vous met en fait des signes d'alerte en vous disant « moi, j'ai été abandonnée, moi, on m'a laissée toute seule, moi, j'ai pas eu ça ». Et en fait, ça, ce n'est pas du tout le rôle d'un parent. Donc en fait, elle n'est pas du tout dans son rôle parce que pour l'instant, elle est centrée sur elle-même. Elle doit d'abord régler son problème pour pouvoir après vous apporter des choses. En fait, c'est tout simplement ce qui se passe avec votre maman aujourd'hui. Donc où vous avez maintenant la capacité à votre âge de la soutenir un petit peu, de lui parler, de lui dire bah, écoute, dis-moi une bonne fois pour toutes ce qui t'arrive, quand papa est parti, les difficultés que tu as eues, etc. Dis-moi, allez, mais maintenant, moi aussi, j'ai aussi besoin de toi. Je suis ta fille, j'ai besoin de toi. Je pense qu'il faut aussi discuter avec elle et lui expliquer ça.
Divine, on vous souhaite une bonne journée. Merci de nous avoir appelés parce que c'est vrai aussi que ces phrases et ces relations difficiles, ça touche aussi de jeunes adultes comme vous avec leurs parents. Merci de nous avoir appelés. Énormément d'appels là, qui se bousculent au standard. Pascal est en région parisienne, à Chelles. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour.
Vous avez 49 ans, vous êtes papa de 3 enfants.
Oui.
On vous écoute Pascal, vous êtes en direct.
Eh bien, je pensais à une phrase qu'on entend souvent et que moi, toute ma famille, j'ai, on va dire, la malchance d'être né dans une famille très pauvre avec pas mal de guerres entre frères et sœurs. Mmh. Et ma mère avait 6 frères et 6 sœurs.
Ouais.
C'est celle qui n'avait pas fait d'études, c'est celle qui devait des dettes à tout le monde, c'est celle qui ne se lavait pas, qui n'avait pas beaucoup d'éducation. Et quelle était cette phrase? C'était « tu es comme ta mère ». Quand j'étais avec ma mère, elle me disait éventuellement « t'es comme ton père ». Et je trouve cette phrase qui ne dit pas d'insulte directe vous blesse énormément, puisque par exemple, pour moi, j'étais forcément idiot, puisque j'étais le fils de ma mère. Et pour vous dire jusqu'à quel point ça a été, c'est qu'il a fallu que je fasse des études pour essayer de me convaincre, non pas les autres, mais moi, que je n'étais pas idiot. Et je suis allé jusqu'au doctorat, et je ne suis même pas sûr que ça ait suffi. Et pourquoi je vous dis ça?
Même c'est pas que, sûr que ça ait suffi vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de vous-même?
Ah, vis-à-vis de moi.
Ah oui.
Et la démarche après, c'est de dire que, pour moi, cette petite phrase, que de plus en plus de parents sont divorcés, notamment sur la région parisienne, de plus en plus partout, quand ils sont avec leur enfant et que l'enfant va faire une bêtise, ah, t'es comme ton père ou t'es comme ta mère, et ça va avoir plein d'effets sur l'enfant. C'est-à-dire qu'on le met dans une cage, je pense vraiment, moi je suis pas psy, mais l'enfant, non seulement on l'accuse lui-même d'être ce qu'il est, mais on l'accuse de choses sur lesquelles il ne peut pas agir, parce que ça concerne son parent dont il n'est pas responsable, il n'a pas choisi.
Et on le remet au cœur du conflit dû au divorce.
Et en plus, on lui dit, t'es comme ton père, qui est donc, ou ta mère, qui est déjà très grand, donc quelque part, déjà définitif, vous ne pourrez jamais changer. Parce que vous dépendez de l'un ou de l'autre. Et c'est pour ça que cette petite phrase, t'es comme l'un ou t'es comme l'autre, ben, ça vous éloigne du parent, et moi je sais que j'ai pas mal souffert, parce que non seulement j'avais cette mère qui me chargeait de tous ses défauts, moi j'essayais de la changer du haut de mes 6 ans, 7 ans, 8 ans, jusqu'à ce que je parte, que je passe devant un juge pour réussir à partir, mais j'avais déjà 17 ans, c'est hyper lourd. Alors la seule possibilité que j'ai eue, c'est qu'il arrivait des choses très graves à mes frères, j'ai écrit un livre qui, au départ, était censé expliquer ma vie, puis pour expliquer ma vie, j'ai dit, tiens, je vais d'abord, pour mettre le contexte, expliquer mes parents, et en écrivant l'histoire de mes parents, j'ai compris qu'en fait, je n'y étais pour rien, que quand on connaissait leur éducation, ou leur manque d'éducation, ou leur mauvaise expérience, on comprenait que finalement tout le mal que j'avais pu recevoir d'eux, bah, c'était pas lié à moi.
Oui, bien sûr.
Et leur propre éducation. Quoi.
Et vous avez en même temps parfaitement dépassé tout ça, analysé, pris du recul, mis à distance aussi hein, ces phrases toxiques. Merci beaucoup Pascal de nous avoir appelé en région parisienne et merci pour ce témoignage, la valeur de ce témoignage qui soulève des choses très intéressantes, Bernadette Lemoine.
Oui, alors là on est
notamment
effectivement...
par rapport aux enfants dans les divorces. Hein.
On est devant des phrases étiquettes. Et quand on a une étiquette, ça colle malheureusement très très longtemps. Et c'est pour ça que c'est toujours important de corriger une phrase qui est fausse, parce que c'est quelque chose de faux. On n'est pas comme papa ou comme maman, on peut ressembler par certains côtés, mais on est comme nous-mêmes et on est chacun unique. Et ça, c'est vraiment important de faire tout un travail pour se réapproprier qui on est, quelqu'un d'unique qui a pu recevoir telle ou telle chose. Et comme je suis vivant, je suis libre, je peux modifier telle ou telle chose.
Alors les fameuses phrases étiquettes, comme vous les appelez, ce sont les généralités qui ne sont pas aussi dramatiques que tu es comme ta mère, qui devient dans l'histoire de Pascal comme l'insulte suprême et qui est d'autant plus destructrice. Mais par exemple, vous citez la phrase qu'on a tous dit, oh bah oui, dans la famille, on est l'orthographe, c'est pas notre truc, ou le sport, c'est pas notre truc. Vous dites, non, il faut pas dire ça à un enfant.
On ne peut pas, parce que tout le monde n'est pas semblable.
Qu'est-ce qu'il faut lui dire, alors ? Parce que ça peut sembler anodin
alors,
de dire ça.
Tu n'es pas le seul dans la famille, ce sera déjà plus juste, tu n'es pas le seul dans la famille, mais vous êtes plusieurs.
À pas être bon en orthographe, par
voilà,
exemple.
Avoir des difficultés, même pas être bon, c'est pas bon, mauvais.
Vous voyez que tout de suite, moi-même, je dis pas ce qu'il faut.
À avoir des difficultés, mais en travaillant. Et ça, je peux donner des exemples, justement.
Donc, beaucoup d'entre nous ont des difficultés dans la famille, mais en même temps, les difficultés sont là pour être dépassées.
Voilà, parfait.
Ah bah, je ne fais que vous lire, Bernadette.
10 sur 10, c'est encourageant. Et car il faut savoir aussi complimenter, féliciter à sa juste mesure, mais là, comme c'est parfait, je peux vous le faire comme
ça. Voilà, hein, dédramatisé. Hein, Pascal,
ouais. En fait, l'être humain, il est tellement différent que déjà, mettre une généralité sur un être humain, c'est déjà une erreur de base.
Oui.
Et encore une fois, on est dans la projection des parents sur leur propre enfance, sur leur propre trauma, sur leurs propres difficultés. Et mon enfant, forcément, ben, il sera comme moi, parce que je l'éduque. Donc forcément, il va avoir des difficultés, mais c'est pas grave. Mon fils, c'est nul, les maths, fait du français comme moi. Et j'ai ça souvent, hein. J'ai des parents comme ça, très souvent.
On accueille Eladj qui nous appelle de Dakar, au Sénégal. Bonjour Eladj.
Bonjour.
Eladj, alors vous avez dit au Standard que vous êtes plus proche de votre maman, vous avez 29 ans, hein, parce qu'il y a un vrai problème de communication avec votre père.
Effectivement.
Racontez-nous.
Non, moi je ne sais pas, mais je suis très proche de ma mère, mais alors que moi j'adore mon père et je l'aime, mais des fois je n'arrive même pas à communiquer avec lui pendant 5 minutes. Même pas 5 minutes, c'est trop avec lui, quoi. Des fois je me demande, et je me demande dans ma tête qu'est-ce qui se passe. Ou bien que c'est moi qui n'est pas normal, ou bien je ne sais pas d'où vient le problème.
Ouais, c'est ça. En tout cas, visiblement, ça vous stresse au bout de quelques minutes de parler avec votre papa. Mais est-ce que votre père a eu ou a encore avec vous des phrases qui sont particulièrement blessantes ?
Non, des fois, non.
Non, c'est pas ça. C'est un problème de communication tout court. Qu'est-ce qu'il dit, votre
c'est
papa ? Qu'est-ce qu'il dit, votre père ?
En fait. Non, il dit que des bonnes choses, en fait.
C'est-à-dire ?
Il ne dit que des bonnes choses. Il ne dit pas des mots déplacés, il ne dit rien, mais Elle nous a bien éduqués, elle nous a tout donné dans cette vie. Mais je ne sais pas, le problème de communication, quoi. D'où vient ce problème de communication entre lui et moi?
C'est une pudeur, en fait.
Ouais.
Il est pudique dans ses relations. Vous auriez voulu qu'il soit plus câlin, qu'il vous dise « je t'aime » ou des mots comme ça? Il est assez pudique dans ses relations, il est assez éloigné de vous.
Effectivement, c'est ça.
Ouais.
C'est culturel un
pas,
peu.
Pas très démonstratif, quoi. Hein.
C'est un peu culturel.
C'est
peut-être
ça.
Il a été éduqué aussi comme ça, lui. Peut-être, je ne sais pas si vous avez vos grands-pères encore, votre grand-père, ou il est encore vivant, votre grand-père?
Non.
D'accord.
Ouais. Mais vous pouvez peut-être vous renseigner dans la famille, hein, par d'autres parents qui pourraient peut-être vous dire comment votre père lui-même a été éduqué. Ça, puisque vous posez la question, je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à communiquer. Peut-être que vous auriez des explications.
Mais il y a beaucoup de pères avec leurs fils qui sont dans cette démarche de, comme on est des hommes, il ne faut pas montrer nos sentiments. Et d'ailleurs, il y a des mots qui peuvent être très durs là-dessus. Ils disent, ouais, t'es faible, tu pleures, t'es comme une fille. Moi, j'ai déjà entendu ça plein de fois. Et d'ailleurs, oui, t'es comme ta mère, tu pleures, t'es pas comme moi et tout. Enfin, ouais, t'as le droit de pleurer, c'est rien, c'est des sentiments. Et ce côté-là, voilà, c'est une erreur souvent qu'ils font aussi les pères, voilà, le père fort et dur.
Merci Eladj de nous avoir appelé à Dakar. Je voudrais lire aussi un message de Kadi à Abidjan qui dit « Moi, je dis souvent à mon fils de 8 ans, tu es trop grand en taille. Quand tu manges, ça te fait encore grandir. » Et il me répond, donc apparemment son fils est immense. « Maman, on dit pas ça. » Du coup, après, je lui dis qu'il est beau. J'essaye de me contrôler pour ne pas lui dire de choses blessantes. Ma maman me fait encore moi-même des remarques sur mon ventre et j'avoue que ça me blesse puisqu'elle me faisait toujours des remarques sur ce que je mangeais devant moi. Elle demandait à ses amis si j'allais rester grosse. Alors comment briser cette spirale puisque là apparemment le fils de Kadi n'a pas de problème de poids mais semble-t-il un problème de taille. On se demande bien d'ailleurs si réellement c'est un problème. Et comment briser ça? À un moment, comment ça doit s'arrêter?
Effectivement, c'est assez difficile, mais il faut que l'enfant en question ou le jeune en question dise « Maman, laisse-moi être moi-même, je n'ai pas à me conformer à tes goûts, à toi ». Je crois que là, il faut que vraiment...
Quand on est adulte, on peut le dire ça. Hein,
oui,
quand
ou même adolescent, pas avant. Oui. Et si on ne peut pas le dire, aider l'enfant à se le dire à soi, je suis comme je suis et je n'ai pas à correspondre au goût de maman. Puis après, il y a quelqu'un d'autre qui va me dire, moi, mon goût est différent, etc. Je reste celui ou celle que je suis.
Ouais.
Mais c'est difficile.
Pascal Maquin, vous travaillez aujourd'hui beaucoup avec des familles. Alors, vous avez travaillé que dans tous milieux sociaux. Hein. Mais vous dites que dans certains milieux sociaux, le problème de l'apparence physique devient parfois une obsession chez les parents.
Dans les milieux aisés, on se regarde beaucoup. Et effectivement, quelqu'un qui serait gros, c'est très mal vécu pour les parents. En fait, les parents, j'ai honte de ma fille, elle est grosse. Alors, est-ce qu'ils ont une crainte pour leur santé réellement? Je ne suis même pas sûr. Je pense vraiment que c'est uniquement l'aspect visuel. L'aspect, elle va être dans une certaine caste. Si elle est grosse, eh ben, elle va être moquée à l'école. Moi, je les vois, ils sont très moqueurs dans les écoles. Voilà, dès qu'on a un petit peu de poids en trop, sans parler des vêtements, etc. Bon. Et du coup, les parents vont donner ce message-là. Alors, au lieu, imaginons, on peut avoir un enfant qui est obèse, en obésité, ça arrive. On va avoir des médecins, il y a des nutritionnistes, il y a des professionnels pour ça. C'est leur métier. Mais il va y avoir juste des enfants qui sont en pleine croissance. Des enfants qui sont dans l'adolescence, des filles notamment, qui sont en pleine puberté, qui vont prendre du poids et qui vont en plus, leur corps va changer totalement après cette puberté. Et au lieu de se poser cette question-là de façon factuelle en disant « je vais voir un médecin, il y a quelque chose », non, ça va être « t'es grosse, qu'est-ce que tu manges? Pourquoi tu manges ça ?» Et du coup, j'ai des enfants qui sont vraiment devenus anorexiques totalement.
Ce qui veut dire que vous avez là des parents, ce que vous nous racontez, c'est des parents qui vont être presque plus toxiques pour leurs enfants que les moqueries qu'ils pourraient recevoir à l'école, à la limite.
Ou alors, ils vont continuer, c'est-à-dire que l'enfant a vécu ça toute la journée à l'école, il va rentrer chez lui. Il va avoir faim, il va prendre un petit quelque chose sur la table. Ah non, tu prends pas ça, t'as vu déjà comment t'es, attends, tu prends du poids, va faire du sport. Est-ce que t'as fait du sport aujourd'hui? Sachant que les ados font moins de sport parce qu'ils sont fatigués, qu'ils sont dans une période où il faut pas qu'ils fassent trop de sport. Et voilà, et donc toute cette démarche-là, je sais, il y a une prise de conscience des parents, je sais pas, je sais même pas si à un moment donné les parents se disent c'est de ma faute. Moi, ils m'appellent des fois, l'enfant est anorexique, il fait 30 kilos, et on me dit il y a pas de remise en question, quoi. C'est « Ah ben, ouais, je crois qu'il est malade. »
Le parent croit aider son enfant et fait exactement le contraire de ce qu'il faut faire.
Il a peur aussi. Il a peur vraiment qu'on dise « T'as raté l'éducation de ton enfant, il est gros. » Vraiment, c'est le terme que moi j'ai eu, c'est « Si t'es gros, t'es mal éduqué. »
Réussir l'éducation de son enfant, c'est effectivement maintenant devenu une pression sociale et ça ne pousse pas forcément à faire au mieux. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On accueille Radhi qui est sénégalaise. Bonjour Radhi, où êtes-vous à Dakar ?
Oui, bonjour, je suis au Mali.
Ah pardon, oui, vous êtes au Mali, mais vous êtes sénégalaise. Effectivement, on me l'avait dit au standard. Alors, Radhi, je sais que vous n'avez pas encore d'enfant, mais je crois que vous attendez un enfant, mais vous êtes souvent monitrice de colonies de vacances au Sénégal. C'est ça, parce que vous avez un diplôme d'état d'éducatrice. Vous posez des questions par rapport à tous ces sujets-là ou vous avez un témoignage à nous livrer?
Oui, en fait, moi, je me dis que c'est pas bien de dire des mots blessants à les enfants.
Oui.
Et je compte pas éduquer comme ça mes enfants. Et déjà, avec les enfants que j'encadre, je sais pas pareil, en fait. J'essaie de les écouter, d'être patiente et d'être plus tolérante, en fait.
Mais est-ce que c'est pas plus simple qu'avec ses propres enfants, non ? L'impatience, c'est quand même souvent un problème qu'on a avec ses propres enfants.
Bon, peut-être avec ses propres enfants, mais il y a d'autres aussi. Ce ne sont pas, c'est pas leurs propres enfants en fait. Ils sont comme ça de nature des fois peut-être. Je me dis.
Vous avez quand même un mauvais souvenir avec votre maman, je crois, par rapport à une mauvaise note.
Oui, par rapport à une note de leçon, histoire ou observation, je ne me rappelle plus, au primaire. Donc j'ai eu 7 ou 8. Et elle m'a fait la reproche comme quoi elle ne peut pas admettre que j'ai cette note, sachant que ce n'est pas des mathématiques ni du français. Donc il fallait que j'aie au moins un 10 ou 9, 5 ans.
Mais voilà, elle vous a fait ce reproche devant une autre personne?
Effectivement, devant un ami qui était venu nous prendre pour prendre le bus. Donc elle a commencé à crier comme quoi, oui, qu'est-ce que je faisais dans la chambre depuis, pour me demander d'apprendre en fait.
Oui.
Je faisais rien là.
Ah oui, c'était pas un reproche là, c'était une scène.
Bah oui, mais ça m'a quand même marqué le fait que l'ami était devant en fait.
Oui, c'est ça. Merci en tout cas de nous avoir appelé, Radhi. C'est vrai que les parents ont tendance à parler de leurs enfants devant eux-mêmes.
Ça, ils prennent un témoin. Et ça leur permet aussi d'exorciser le fait de... Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont peur de parler à leurs enfants. Ils ont peur de la réaction de l'enfant. Ils ont peur de ne pas être aimés aussi. Donc du coup, ils vont prendre un témoin. Pour valider. Regarde. Sauf que pour l'enfant, si déjà la phrase, elle est difficile à entendre, l'humiliation d'être face à une autre personne. Et des fois, même il y a des enfants. Moi, j'ai des parents qui, devant d'autres ados, disent « Regarde, t'es mal coiffé, t'es sale, tu t'es pas lavé hier. » Devant la petite copine, j'ai déjà eu ça, moi. Prends à part ton enfant, dis-lui voilà, l'éducation, voilà, faut que tu sais, tu t'es pas lavé, pourquoi, tiens, bah regarde, qu'est-ce qui se passe et tout. Mais là, c'est pas possible de faire ça, c'est hyper, hyper néfaste.
Oui, ça, c'est vraiment à bannir ce genre de comportement. Et bien souvent, quand on fait honte à un enfant, c'est parce que, quelque part, le parent a honte de cet enfant-là. Donc, tout ça, inconsciemment, l'enfant le sent. Donc, ça veut dire, je suis un objet de honte. Donc, c'est très toxique.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On accueille Yvette qui est à Yaoundé au Cameroun. Bonjour Yvette.
Oui, bonjour.
On vous écoute Yvette, vous êtes en direct.
Ah d'accord, merci de me passer la parole. Alors j'appelle tout simplement pour dire que même si on n'a pas reçu certaines attentions, si on n'a pas reçu certaines... remarques positives, on peut en donner. Moi, par exemple, j'ai 45 ans, j'ai un fils de 22 ans, donc un grand garçon. Je l'ai eu très jeune et son papa et moi ne s'est pas bien, enfin les relations n'ont pas été bonnes, on s'est séparés, mais j'évite de lui raconter tout ce que son père avait fait de mal, parce que j'estime que ça ne le regarde pas forcément. Bah oui, je lui ai parlé de son père, mais vraiment sans plus. Et maintenant, moi, de temps en temps, j'essaie de m'intéresser à ce qu'il fait à l'école, bien que je ne comprenne pas toujours grand-chose, mais j'essaie de m'intéresser, je l'encourage, je lui dis il est le meilleur, il est unique, des mots qui m'ont marqué et dont je suis sûre que forcément ils apportent quelque chose, ils mettent du baume dans le cœur Même pas forcément un enfant, hein, parce que même nous adultes, nous en avons besoin. Donc je lui ai dit tout simplement aux parents qu'il n'est jamais trop tard, même si on n'a pas reçu, on peut donner, on peut apprendre, parce que c'est des choses franchement qui nous aident. Même dans le lieu de service, quand votre N+1 vous dit félicitations, vous avez fait bien, franchement ça retient un peu, ça donne envie de continuer. Donc moi c'est la petite expérience que j'avais à partager. Oui. Vous dites que c'est très important.
Et précisément des phrases positives que vous n'avez pas reçues de vos parents, si j'ai bien compris.
Oui, moi je n'ai pas reçu, mais en fait j'ai compris que mes parents c'était par ignorance. Ma mère n'avait pas été à l'école, donc je ne vais pas lui en vouloir parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Elle n'avait pas ça, donc elle ne pouvait pas me donner. Mais moi j'ai appris, j'ai lu des bouquins, j'ai cherché à écouter des émissions comme celle-ci, et puis du coup j'ai compris que c'était vraiment important. Et je vois ce que ça fait dans sa vie, des moments où il est vraiment au fond de son truc, mais quand je lui dis un petit mot, ça le remonte, et puis je comprends que c'est vraiment important.
Ouais, vous parvenez tout à fait à l'encourager, à lui remonter le moral quand il traverse un moment difficile.
Et surtout éviter aussi de comparer à, voilà, tu vois ton camarade, il est comme ça, pourquoi toi tu fais pas ci? Bon, ça aussi, il faut éviter. Parce qu'on est unique, hein, on est unique en fait.
Merci Yvette de nous avoir appelé pour ces bons conseils et cette histoire franchement positive sur les comparaisons dans les fratries. C'est inévitable, tous les parents l'ont fait.
Bah, moi je pense que c'est évitable justement.
Il vaut mieux l'éviter.
C'est évitable. Mais oui,
alors, qu'est-ce qu'on
dit? C'est facile, encore une fois, c'est une facilité.
Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire?
Ben, il ne faut justement pas du tout comparer les gens, parce que les gens sont différents, ont leur propre parcours, et que si on a quelque chose à reprocher à son enfant, et encore une fois, ça c'est parce qu'on a peur de reprocher à son enfant, donc du coup on va prendre, encore une fois, on va être un témoin, parce que c'est le témoin du coup l'autre enfant, pour lui dire, un curseur, pour dire regarde lui il a réussi ça, alors qu'il y a toujours le cas contraire, il n'a pas réussi ça et moi j'ai réussi ça, on peut ne pas finir là-dessus. Ce qu'il faut dire c'est prendre l'enfant à part et parler de son cas personnel, on n'a pas à prendre un autre enfant, un autre cas, c'est deux personnes différentes.
Par rapport à soi-même, par rapport à chaque enfant, est-ce que tu as fait de ton mieux? C'est pas réussi, c'est pas grave, tu feras mieux encore la prochaine fois. C'est uniquement par enfant et on ne peut pas les comparer entre eux, ils sont différents. Alors on ne peut pas leur demander la même chose.
Vous parliez de la pression scolaire, hein, puisque beaucoup d'auditeurs nous ont parlé du manque d'encouragement dans la scolarité. Bernadette Lemoine, moi j'aime bien ce conseil quand vous dites, quand on va chercher ses enfants à l'école, à l'heure actuelle, on le sait, il y a beaucoup de pression scolaire partout. Hein, Pascal Maquin, ce n'est pas vous qui allez démentir.
D'ailleurs, ça s'interagit après dans l'entreprise, puisque là, quand on parle des mots, c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, ils ont fait une étude qui prouve que les gens, ils attendaient plus qu'une augmentation, ils préféraient avoir des compliments de leur patron. Donc c'est très marrant. En fait, ça nous suit
toute notre
vie.
C'est la suite de l'école.
Bien sûr. Et c'est vrai qu'à l'école, il y a une pression maintenant de réussite, de scolarité, dès le tout jeune âge. Vous voyez ce qu'ils demandent aux enfants en termes de devoirs et tout. Enfin,
et alors Bernadette Lemoine, vous dites quand l'enfant sort de l'école, si on va le chercher à l'école, si on le retrouve à la maison, il ne faut pas parler systématiquement des notes. Surtout s'il est en difficulté. Il faut parler de la journée, mais pas parler des notes.
D'accord. Et puis, vraiment n'avoir qu'une seule idée. Est-ce que tu as fait de ton mieux? C'est raté. Bon, d'accord. Alors, comment pourras-tu faire un peu mieux la prochaine fois? Voilà. Et je vous assure que ça soulage énormément l'enfant. Et même une mauvaise note, ce n'est pas l'enfant qui est mauvais. Parce qu'il s'assimile à la note qu'il a. Il n'est pas sa mauvaise note. Donc c'est très important de voir s'il a fait son possible. S'il n'a pas fait son possible, parce que la flemme, ouais, ça existe. Là, il me semble que tu aurais pu faire plus. Et je te demande, ou je t'invite à faire davantage attention, parce qu'il me semble que là, tu aurais pu l'éviter. J'aimerais bien que tu l'évites la prochaine fois. Donc c'est un encouragement. On montre qu'il y a des failles. Mmh. On montre qu'il y a des progrès à faire. Mais c'est le progrès, c'est pas le résultat.
Et on parle des notes au moment des devoirs, au moment du travail scolaire. C'est ça?
Ben, oui.
C'est le bon moment.
Oui, oui. Non, les notes... Vraiment, les notes, je suis pas pour... qu'on en parle trop souvent. C'est pas tous les jours qu'on va en parler. Il y a des bulletins. Et puis, il y a effectivement le parent qui veille sur le travail de l'enfant et qui voit s'il peut faire un peu mieux ou s'il a fait de son mieux. Je crois que ça suffit.
On accueille une voisine qui nous appelle de Lomé. Est-ce qu'on a bien Andrea en ligne? Oui, bonjour Andrea. Vous êtes au Togo.
Bonjour RFI.
Vous êtes chez 7 milliards de voisins, Andrea, on vous écoute. Vous élevez seul votre petit garçon de 4 ans, hein, je crois.
Oui, j'élève seul mon garçon de 4 ans. Le problème, c'est que il est collant, je dirais même trop collant avec moi. Et parfois, moi, ça m'irrite et il arrive que je le repousse pas très gentiment, en fait.
Qu'est-ce que vous appelez qu'est-ce que vous voulez dire par le mot collant pour un petit garçon de 4 ans avec sa maman?
Il est tout le temps, je vais dire tout le temps sur moi. Par exemple, je vais le chercher à l'école, je le ramène, je lui fais à manger, je le douche. Alors, je lui dis d'aller prendre peut-être ses jouets, son ardoise, ou peut-être regarder des dessins animés. Et moi, je me mets à travailler. Mmh. Il laisse tout ça, il revient là où je suis en train de faire mon travail. Il monte sur moi, il pose sa tête sur moi, il me pose des questions. Et là, parfois, moi, quand ça m'irrite, je le chasse, en quelque sorte. Mmh. Je lui dis, retourne là où tu es. Parfois, je dis, dégage. Parfois, je dis, laisse-moi tranquille. Et avec le ton pas toujours doux. Mmh. Après, je me remets en cause, je me dis, j'aurais pas dû, mais ça revient toujours en fait.
Oui.
Et maintenant, mon inquiétude est de savoir si ça aurait des répercussions sur lui.
Mmh. Bernadette Lemoine.
Alors oui, effectivement, je comprends cette maman qui fait ce qu'elle peut et qui ne peut pas avoir tout le temps son enfant sur les genoux ou dans les bras. Mais c'est un enfant qui a énormément besoin de votre affection, de marques de tendresse et d'affection. Alors bien sûr, vous lui donnez à manger, vous lui donnez son bain, mais il faudrait, si c'est possible, que vous puissiez jouer un petit peu avec lui et ensuite lui dire... Maintenant, moi, j'ai aussi mon travail à faire. Je continue à t'aimer, même quand toi, tu joues et que moi, je fais mon travail. Mais voilà, je te laisse, mais je continue à t'aimer. Pour ça, il faut qu'il ait vraiment des marques de tendresse et qu'il sache que quand ce n'est plus l'heure des marques de tendresse, à ce moment-là, effectivement, il sait que sa maman continue à l'aimer.
Jouer avec son enfant quand il rentre de l'école, généralement, ça marche très très bien. Ensuite, l'enfant, une fois qu'il a joué avec son père ou sa mère, il est content et il va avoir beaucoup plus de facilité à jouer tout seul. Non
oui, puis après, c'est aussi un moment où on peut dialoguer. Justement, on parle des petites phrases et c'est important parce que le moment du jeu, c'est un moment un peu qui... à part où on partage autre chose avec son enfant, on partage une action, on produit quelque chose avec lui, on n'est pas dans l'inactivité et on peut apprendre beaucoup de son enfant, on peut voir aussi qu'est-ce qu'il a, on parlait tout à l'heure des devoirs, ouais. Moi je parle toujours de produire et d'apprendre, c'est deux choses différentes, moi je parle jamais de produire, je parle que d'apprendre quand je parle d'école, et ben des fois dans un jeu on peut voir ce qu'il a appris aussi à l'école. Et, voilà.
Et l'occasion de l'encourager, de lui dire voilà. « Oh, mais c'est formidable,
bien
tu sais
sûr,
faire
bien
ça ».
Bien sûr, l'encourager, mais par contre, c'est sûr et certain qu'il y a des enfants qui ont plus besoin de l'adulte que d'autres. Ça, c'est des caractères. Mmh. C'est indéniable. Je ne sais pas si elle est toute seule, cette dame en plus.
Vous êtes toute seule avec votre petit garçon.
Oui.
Hein.
Mmh. Oui.
Andrea.
Oui, je suis seule avec lui.
Mais est-ce que quand vous rentrez, j'imagine que du coup, vous êtes pressée que tout soit fait, le dîner, etc., pour retourner à votre travail, mais est-ce que vous avez essayé de prendre 30 minutes pour un petit garçon de 4 ans, c'est long déjà, 30 minutes avec vraiment un jeu, vous êtes que tous les deux dans le jeu, quel que soit le jeu, ça peut être jouer au ballon, hein, enfin, il n'y a pas besoin, ou faire des dessins.
Oui, les jeux, il arrive qu'on joue ensemble, mais c'est plus en week-end. Il y a plus de temps pour moi. Quand il fait ses jeux, je suis avec lui, je l'aide à le faire. Et même parfois, quand je joue avec lui, quand vous dites 30 minutes, je peux le faire au-delà.
C'est pas simple en tout cas. Hein. Je suis désolée, on arrive à la fin de cette émission et vous êtes encore nombreux à souhaiter vous entretenir avec nos invités. Merci en tout cas à tous les deux, Bernadette Lemoine. Petite phrase à leur dire pour les aider à grandir. Et merci à vous, Pascal Maquin. Merci. Lundi, 7 milliards de voisins, rediffusion de l'émission avec Marie-France Bokassa, l'une des filles de Jean Bedel Bokassa, née en Centrafrique, mais surtout élevée en France, dans le fameux château d'Ardricourt dans les Yvelines, aux côtés d'un père attentif et maltraitant, aimant et autoritaire, fier de sa progéniture et destructeur. Elle raconte sa folle enfance dans un récit précis et simple au château de l'Ogre. À lundi les voisins. Carrefour de